Alors, est-ce que vous saviez qu'il existe un syndicat du chocolat? Il existe un syndicat du chocolat qui a d'ailleurs un secrétaire général, et ce secrétaire général, c'est une femme, du nom de Florence Pradier. Florence Pradier, secrétaire générale du syndicat du chocolat. Et voici ce qu'elle déclarait il y a quelques jours. Pâques, c'est le rendez-vous traditionnel des Français avec les chocolatiers. Et elle continue en disant, les valeurs de partage et de convivialité portées par le chocolat soutiennent sa consommation pendant les périodes festives. Alors c'est génial parce que la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pour Florence Pradier, ça veut dire plus de ventes, ça veut dire une économie, l'économie du chocolat en tout cas, qui est nourrie et qui par ailleurs nourrit ses consommateurs de chocolat, n'est-ce pas? Mais vous voyez ce qui compte pour Florence Pradier, secrétaire générale du syndicat du chocolat, à Pâques tous les ans. C'est dire que la commémoration de la résurrection de Jésus ne rencontre guère que l'indifférence aujourd'hui dans notre société. D'ailleurs, qu'est-ce qui prédomine dans l'actualité ces jours-ci? Les manifs anti-nucléaires, les conflits bien sûr au Cambodge, en Libye, en Syrie, la grossesse de Carla Bruni. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Nous le saurons peut-être dans 9 mois. Et puis, bien sûr, au milieu de tout ça, l'actualité fait une petite mention des célébrations de Pâques qui ont lieu par-ci, par-là, notamment l'allocution, si j'ose dire, de Benoît XVI qui a appelé à plus d'accueil dans nos pays des étrangers qui proviendraient d'Afrique. On parle à Pâques, mine de rien, de la résurrection de quelqu'un qui était mort. Résurrection, ça veut dire qu'il était mort et il est redevenu vivant. Vous ne croyez pas que c'est ça qui devrait dominer l'actualité depuis 2000 ans? Un gars était mort et enterré et il est redevenu vivant 3 jours plus tard. À mon avis, ça devrait être la une de tous les journaux depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, on s'est un peu habitué. Et Pâques, si Pâques c'est une source de joie pour beaucoup, c'est une source de joie parce que c'est un long week-end. Parce que c'est l'occasion de voir la famille, et puis tout ça c'est bien, hein? C'est l'occasion de manger du chocolat et ainsi de suite. Et quels étaient nos sentiments ce matin? Quand nous on s'est levé, peut-être qu'on s'est levé cet après-midi d'ailleurs, comme le culte est à 17h, quels étaient nos sentiments quand nous nous sommes levés aujourd'hui, jour de Pâques, et que nous nous sommes préparés pour venir au culte? Est-ce que nos sentiments étaient si éloignés que ça en tant que chrétiens? De l'indifférence générale que nous constatons tout autour de nous. Ben pour moi, franchement, les dimanches matins, c'est pas le jour de la semaine où je suis le plus en paix, le plus joyeux, parce que moi, en tant que pasteur, je suis stressé. Et ce dimanche, c'était pareil que les autres dimanches, peut-être un peu pire d'ailleurs, à cause de tout ce qui a mal tourné ce week-end. Et pour vous, comment était-ce aujourd'hui, depuis que cette journée a commencé, ce jour de Pâques? Peut-être que la foi chrétienne en général est devenue pour vous une simple habitude. Ou une curiosité peut-être pour vous cet après-midi, une curiosité que vous observez avec un certain recul. Peut-être vous n'êtes pas sûr si vous avez envie d'être un chrétien ou pas, mais vous regardez, vous observez pour savoir. Vous savez, il me semble qu'il y a un vrai et profond décalage entre la nature de l'événement extraordinaire qui a eu lieu lorsque Jésus est ressuscité, et la façon dont la plupart d'entre nous, en fait, moi y compris, nous réagissons vis-à-vis de cette information. Et le texte qu'on va lire là dans quelques instants maintenant, dans quelques secondes, c'est un texte qui va nous montrer que la résurrection de Jésus, en fait, en tant qu'événement dans l'histoire, sa résurrection consiste en un tour de force extraordinaire. C'est la manifestation d'une puissance extraordinaire qui ne peut laisser personne indifférent, en fait. Et peut-être aujourd'hui, la résurrection de Jésus a le potentiel de bouleverser votre rapport à Dieu, votre relation à Dieu, et par conséquent votre vie tout entière. Alors j'aimerais qu'on lise le texte, ensuite on va prier, et puis ensuite on va regarder ça plus en détail. Alors le texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, tout à la fin, dernier chapitre, chapitre 28, qui nous rapporte donc cet événement, la résurrection de Jésus, chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre, et il dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » On va s'arrêter là pour la lecture. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle a à nous apprendre. Mais nous confessons maintenant que sans l'aide de ton esprit, c'est inutile, inutile d'étudier ta parole. Il n'y a que ton esprit qui peut appliquer ces vérités à nos cœurs et nous transformer selon ta vérité. Et c'est ce que nous demandons maintenant au nom de Jésus le ressuscité. Amen. Alors, qu'est-ce que Matthieu raconte dans cette histoire? Il raconte que les deux Maries, Marie-Madeleine et l'autre Marie, dit-il, et les M&M's, si vous voulez, hein, Marie et Marie, M&M's, se rendent de très bonne heure au tombeau de Jésus. Et elles ne sont pas encore arrivées que soudain, il se passe quelque chose d'extraordinaire, nous dit-il, et de terrifiant. Un grand tremblement de terre, vous avez remarqué? Un être céleste qui descend du firmament. Une force extraordinaire qui est déployée pour rouler de devant l'entrée du tombeau, la pierre qui avait été mise pour fermer l'entrée. Une pierre massive qui bouchait l'accès au tombeau. Et l'ange victorieux qui est descendu du ciel, cet être céleste extraordinaire qui s'assoit sur cette pierre massive qu'il vient de bouger. Et il brille de tous ses feux éblouissants, il est comme l'éclair. Un éclair qui ne dure pas une fraction de seconde, un éclair qui est là, assis sur le rocher. Et ses vêtements sont blancs comme la neige et ils n'avaient pas inventé les lunettes de soleil à l'époque. Et les gardes qui devaient surveiller le tombeau, qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Ils sont pétrifiés, morts de peur. Morts de peur, terrorisés. Vous voyez, Matthieu ici, au moment d'aborder son dernier chapitre, au moment de parler de la résurrection de Jésus, il veut nous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose de terrifiant. De terrifiant. Ces gardes, mes amis, ce sont pas des... Vous savez, c'est pas des gens comme les surveillants de stades de foot, vous voyez. Quand il y a un match à Gerland, juste à côté, ils font appel, ils demandent des volontaires, des bénévoles, ils vont mettre une veste jaune fluo, ils vont se tenir tout autour du stade, d'accord. Mais bon, si les 40 000 personnes décident d'envahir le stade, ils peuvent rien faire. C'est pour l'apparence, c'est pour donner l'impression qu'ils sont en contrôle de la situation. Bref, les gardes de l'histoire, ce ne sont pas des bénévoles comme ça, avec une veste jaune. Hein. Ce sont des gardes romains, armés, entraînés pour le combat. Et d'après un historien de cette époque qui s'appelle Polybe, on peut savoir précisément de quoi ils avaient l'air, ces gardes. Ils sont armés d'une épée, d'un ou deux javelots, d'un grand bouclier, d'un casque, et parfois même d'une armure complète, en ferraille, d'accord, qui protège les membres de leur corps. Et ils étaient vraisemblablement, au minimum, une quinzaine de gardes. 15 gardes, d'accord? Une équipe de rugby. Le 15 de Rome, si vous voulez. Hein. Imaginez ces grands gaillards, donc les All Blacks de l'époque. Vous avez déjà regardé un match de rugby avec les, hein, oui, je sais qu'il y en a qui aiment ça, hein, les, avec les Néo-Zélandais qui font le haka. C'est impressionnant, hein, vous voulez pas vous trouver face à des gens comme ça. Imaginez ces gars avec une armure, une épée, deux javelots, un casque et un bouclier, d'accord ? Et ils sont en train de trembler de peur. Ils sont en train de gémir. Ils sont en train d'appeler leur maman à l'aide. Ils devinrent comme morts. Et Matthieu commence tout juste de cette manière son compte-rendu de la résurrection de Jésus. Un événement terrifiant. Il veut nous montrer que la suprématie de Jésus, manifestée par sa victoire sur la mort, doit nous terrifier. Elle doit nous terrifier. Dites-moi, quel genre de puissance est capable de vaincre la mort ? La puissance d'un char d'assaut ? La puissance d'un tsunami est-elle capable de vaincre la mort ? La puissance d'une bombe nucléaire est-elle capable de vaincre la mort ? La puissance du soleil ? Ou la puissance du Big Bang ? Ou toute l'énergie de l'univers réunie est-elle suffisante pour vaincre la mort ? Non. Impossible. Mais si devant la puissance du soleil ou la puissance d'un simple char d'assaut, nous tremblerions de peur, nous serions épouvantés, alors quelle serait notre réaction face à une puissance infiniment, je dis bien infiniment supérieure à cette puissance-là? Quelle serait notre réaction face à une puissance capable de vaincre la mort? Une puissance plus forte que la mort. Le tremblement de terre, l'ange resplendissant qui descend du ciel et qui roule la pierre de devant le tombeau et qui s'assoit dessus, tout ça, dans le texte de Matthieu, c'est l'annonce de la victoire de Jésus sur cet ennemi ultime qu'est la mort. C'est la manifestation, si vous voulez, de sa suprématie sur tout l'univers, sur toute l'énergie contenue dans l'univers, sur tout le cosmos, sur toute puissance, sur toute autorité. Ce récit, c'est la description, c'est l'annonce de cette suprématie. Et nous, et Florence, comment s'appelle-t-elle déjà ? Florence Pradier, à Pâques, nous parlons de chocolat. Nous parlons de chasse aux œufs. Nous parlons de lundi férié. On a banalisé la résurrection de Jésus, n'est-ce pas ? Alors même qu'elle devrait nous faire peur quelque part, hein ? Nous faire peur, nous faire trembler. Et c'est comme ça en tout cas que Matthieu commence son récit de la résurrection. Mais il ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, il ne s'arrête pas là dans son récit. Poursuivons le récit à partir du verset 5, verset 5 à 7 notamment. Alors, Matthieu a parlé de la terreur des gardes. Et ensuite, il va dresser un contraste saisissant. Voici ce qu'il dit, verset 5. L'ange prit la parole et il dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » L'ange dit aux femmes qu'elles ne doivent pas avoir peur. Il ne dit pas ça aux gardes. Hein. Il parle aux femmes. Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Et il leur donne alors une explication pour cette situation spectaculaire. Enfin, je veux dire, les femmes, elles arrivent au tombeau, elles sont prises de court. Elles sont probablement par terre, comme mortes avec les gardes, hein, devant cette manifestation extraordinaire. Hein. Mais là, l'ange leur dit, n'ayez pas peur, et il va leur donner une explication pour cette situation. Il leur dit que Jésus est revenu à la vie. Il leur dit, l'ange leur dit que Jésus veut les revoir, et que Jésus veut revoir non seulement ses femmes, mais aussi les disciples. Et l'ange va leur parler ensuite du lien d'affection qui existait et qui existe encore entre Jésus et elles, et les disciples. L'ange leur fait comprendre que celui qui est ressuscité et qui a une puissance telle qu'il a vaincu la mort, l'ange veut leur faire comprendre que celui-là, il est leur ami. Il vous précède en Galilée. La Galilée, c'est là qu'ils ont appris à se connaître, vous voyez. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Il veut vous revoir. Il veut vous revoir dans ces lieux où vous avez appris à vous connaître, vous et lui. Où vous avez fait tant de choses ensemble. Où vous l'avez vu vivre, vous l'avez peut-être même vu grandir. Il vous précède là-bas. Et il veut vous voir. Il est votre ami. Tout le monde ici connaît l'histoire des chroniques de Narnia. Et dans le premier volet des chroniques de Narnia, le monde de Narnia, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a Suzanne et Lucie, les deux petites filles, qui discutent avec Monsieur et Madame Castor au sujet de leur rencontre prochaine avec un certain lion dénommé Aslan. Et Suzanne se demande, n'est-il pas dangereux ? Ça me fera plutôt peur de rencontrer un lion. Et Madame Castor de répliquer, tu auras certainement peur, ma mignonne. C'est sûr, s'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. Et alors Lucie dit, mais donc il est dangereux. Et Monsieur Castor reprend, dangereux ? Vous n'avez donc pas entendu ce qu'a dit Madame Castor, dangereux, évidemment qu'il est dangereux. Mais il est bon. Et Jésus aussi est dangereux, mes amis. Jésus est dangereux parce que sa puissance dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Mais Jésus est bon. Il aime ses disciples. Il aime ces femmes qui sont venues de bonne heure au tombeau. Ce que Matthieu est en train de nous montrer ici, c'est que oui, Jésus est ressuscité. Oui, il est sorti victorieux du combat suprême contre la mort. Oui, il a vaincu l'ennemi ultime, qu'est la mort. Mais il l'a fait pour nous, pour ceux qu'il aime. Oui, la résurrection est la manifestation d'une puissance extraordinaire, mais cette puissance extraordinaire a été déployée en faveur de ceux que Jésus aime. Il l'a fait pour tous ceux qui renoncent à leur propre autonomie, pour tous ceux qui confessent leurs péchés et qui s'en remettent totalement à lui dans la confiance. D'où la parole de l'ange. Si c'est votre cas, si vous avez placé votre confiance en Jésus, si vous l'aimez, si vous êtes son disciple, pour vous, dit l'ange, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est dangereux, mais il est bon. Et à ce stade du récit, dans l'évangile, il y a un contraste incroyable. Un contraste incroyable entre, d'un côté, le 15 de Rome, armé, puissant, entraîné, qui tremble de peur à un tel point qu'ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour émettre un son. Ils sont comme morts, nous dit le texte. D'un côté, il y a eux, et puis de l'autre côté, il y a deux femmes vulnérables, deux femmes endeuillées, deux femmes perplexes, dubitatives, qui ne savent pas trop ce qui se passe, auxquelles l'ange dit « Vous n'ayez pas peur ». Est-ce qu'on est prêt à ressembler à ces femmes-là, dans leur vulnérabilité, dans leur fragilité, certes, mais dans l'affection qu'elles portent pour Jésus. Est-ce qu'on est prêt à ressembler à ça ? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt, au fond, envie d'intégrer l'équipe de rugby de Rome, hein, d'être couvert d'une armure et équipé d'armes pour essayer de résister, à l'autorité de Jésus ? Mais c'est peine perdue face à une telle puissance, n'est-ce pas ? Est-ce que nous, on n'a pas plutôt tendance à vouloir quelque part que Jésus reste dans son tombeau pour pas qu'il se mêle de notre vie privée ? voyez, confrontés à la suprématie de Jésus, les gardes ont tremblé de peur. Les femmes aussi ont tremblé de peur. Mais elles ont reçu une parole de réconfort et l'assurance que Jésus les aimait. Et cela a eu chez elles un effet remarquable. Regardons la suite et la fin du texte. Matthieu raconte ensuite, à partir du verset 8, que les femmes, elles sont parties en courant. Elles sont parties en courant, elles s'éloignèrent promptement du tombeau. Non pas à cause de la peur, alors même qu'elles éprouvent un genre de peur, il est dit, avec crainte. Mais à mon avis, elles partent en courant à cause de la joie dont il est question juste après, la grande joie, une joie débordante, un empressement qui les pousse à aller annoncer le plus vite possible aux autres disciples ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que Jésus va les rencontrer sur le chemin. Et lorsqu'elles le voient, elles se prosternent pour saisir ses pieds et elles se mettent à lui rendre un culte. Elles se mettent à adorer Jésus, à lui rendre un culte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'après moi, ici, dans la façon dont ces deux femmes célèbrent Pâques, il y a tout sauf de l'indifférence. La résurrection de Jésus a radicalement changé leur perspective et leur attitude. Complètement. Le culte de ces femmes, le culte chrétien de ces femmes, culte de Pâques, c'est de se prosterner, de saisir les pieds de Jésus et de l'adorer. Ce sont des personnes qui connaissaient Jésus de façon intime. Elles ne se jettent pas dans ses bras. Elles ne lui font pas la bise. Oh, salut, ça va, moi. Non, elles se jettent par terre. Elles saisissent ses pieds. Et elles l'adorent. Elles ont été bouleversées. Je suis sûr que vous êtes amené à rencontrer des inconnus très régulièrement, peut-être même dans le cadre de votre travail, peut-être tous les jours. Est-ce que vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, qu'on apprend des choses sur les gens, notre opinion évolue à leur sujet, n'est-ce pas ? Non seulement notre opinion change à leur sujet, mais aussi notre façon de les aborder, ces gens. C'est pas vrai ? Jonah n'est pas là, il y a sa femme qui est là, mais je peux parler de lui quand même, parce que je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser dans une illustration. J'ai rencontré Jonah il y a peut-être 2 ans à peu près. Quand je l'ai rencontré, c'était un gars sympa, il ne parlait pas beaucoup le français, on discutait un peu comme ça. J'avais remarqué qu'il était à peu près de ma taille, brun, machin, donc je me sentais à peu près à son niveau, on discutait, tout ça. Puis limite, comme c'était un Américain, je me sentais un petit peu supérieur. Donc, t'es chez moi ici en France, et tout ça, enfin, je discutais. Et puis, il a commencé son stage dans l'église, tout ça, super. Jonah, le stagiaire, vous voyez, il va porter ma mallette, hein. Non, je plaisante. Et puis, après quelques mois, vous savez ce que j'ai découvert ? Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai découvert que Jonah avait écrit un livre. Et j'ai découvert que son livre allait être publié chez un éditeur de renom dont j'ai déjà 3 autres livres chez moi, dans ma bibliothèque. Alors vous voyez, mon opinion au sujet de Jonah a changé à ce moment-là. Et je ne lui ai plus demandé de porter ma mallette, d'accord ? Et je me suis senti un petit peu moins supérieur, vous comprenez ? Je l'abordais avec plus de respect et d'admiration. Je me souviens aussi d'une autre fois où, lors d'une rencontre de pasteurs, j'ai salué plein de gens que je ne connaissais pas. Bon, bonjour, 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 mon frère, tout ça, voilà. Rencontre de pasteurs. Bon, la majorité des gens qui étaient là, je ne les connaissais pas. Et puis, la réunion s'est déroulée. Puis, pendant la réunion, mon voisin de droite, quelqu'un que je connaissais, se penche vers moi et me dit, « Tu sais, tu vois le gars là-bas que tu as salué tout à l'heure Tu sais qu'avant de devenir pasteur, avant de se convertir, il a été 3 fois champion de France de boxe. » J'aime autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, ce monsieur a retenu toute mon attention. Sans doute qu'après la réunion, lorsque l'occasion m'a été donnée de lui reparler un peu, ben, je devais peut-être bégayer un peu et hésiter à le regarder dans les yeux, peut-être à paraître tout à fait intimidé. « Bonjour monsieur, très heureux de vous connaître, etc. etc. » Vous voyez comment l'opinion que nous avons de quelqu'un change en fonction des informations que nous avons à son sujet. Et vous voyez dans le texte, au moment où les femmes comprennent que Jésus n'était pas juste un grand prédicateur, pas juste un prophète, pas juste quelqu'un qui accomplissait des miracles, pas juste quelqu'un qui a écrit un livre qui va être publié chez un grand éditeur, pas juste un triple champion de France de boxe, mais quand elles ont compris que Jésus était l'éternel champion de l'univers, toutes catégories confondues, toutes disciplines confondues, les femmes ont saisi ses pieds et elles l'ont adoré. Je me demande si Jésus devait entrer dans cette pièce à l'instant et nous dire, comme il l'a fait avec ses femmes, « Je vous salue !» Je me demande combien d'entre nous, on aurait l'idée à ce moment-là de s'abaisser à ses pieds et de l'adorer, comme l'ont fait ces femmes, de saisir ses pieds et de lui rendre un culte dans cette position. Je crois qu'il nous manque quelque chose, non ? Je crois qu'il nous manque la peur, une terreur appropriée devant la suprématie de Jésus-Christ manifestée à sa résurrection. Je crois qu'il nous manque cette crainte bienfaisante qui nous permettrait de dire, comme le psalmiste dans le psaume 2, « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant, dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie. » Car sa colère est prompte à s'enflammer. Pourquoi elle est prompte à s'enflammer ? Parce qu'il est saint, parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il est juste, il doit punir l'injustice, n'est-ce pas ? Sa colère est prompte à s'enflammer. Et le psalmiste finit sur cette affirmation, cette promesse. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Et en se réfugiant en lui, rempli comme Marie et Marie, de crainte et de joie, ou comme le psalmiste rempli d'allégresse et d'effroi en même temps, alors mes amis, vous et moi, nous entendrons la tendre voix du Fils suprême nous rassurer et nous dire « Sois sans crainte, sois sans crainte. Je suis dangereux, mais je t'aime. » En introduction, on faisait un peu le constat que la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ ne rencontre de nos jours guère que l'indifférence, n'est-ce pas, dans notre société. On a fait le constat d'un vrai et d'un profond décalage entre l'événement extraordinaire de la résurrection de Jésus et la façon dont la plupart d'entre nous, finalement, nous réagissons vis-à-vis de cette information. Et je crois que ce texte a cherché à nous montrer que la résurrection de Jésus devait, au contraire, en tout cas dans un premier temps, nous inspirer de la peur, de la terreur même, à cause de la puissance, de la nature, de la puissance qui a été manifestée ce jour-là. Une puissance telle que la mort même a été vaincue. Mais dans un deuxième temps, la résurrection de Jésus, c'est aussi une incroyable bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent renoncer à leur armure, déposer les armes, renoncer à leur force, à leur expérience et confier leur vie tout entière à Jésus-Christ. Parce que pour eux, cette puissance extraordinaire a été déployée en leur faveur. En leur faveur. Et vous voyez, si on associe la crainte véritable et puis la joie véritable, qu'est-ce qu'on obtient ? Un bouleversement total de notre vie. Est-ce que c'est votre expérience ? Ce qui en résulte, c'est une relation approfondie avec Dieu. Ce qui en résulte, c'est une fête de Pâques tous les dimanches. Vous savez pourquoi on célèbre le culte le dimanche ? Parce que c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Tous les dimanches, c'est Pâques. Une vie qui est à la fois caractérisée par la crainte et la joie, c'est une vie dont le maître bienveillant, c'est aussi le champion de l'univers. Alors, je veux vous poser une question. Est-ce que Pâques, dans votre vie, ça a déjà voulu dire ça ? Ou bien jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Pâques, dans votre vie, ça n'a été que chocolat, chasse aux œufs et lundi férié ? Qu'est-ce que c'est Pâques pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la résurrection de Jésus ? pour vous aujourd'hui. Réfléchissez au témoignage de cette histoire qui nous est rapportée ici, à l'exemple de ces deux femmes, Marie et Marie, M&M's. Réfléchissez à la façon dont elles, les premiers témoins de la résurrection de Jésus, elles se sont abaissées pour saisir ses pieds et l'adorer. Jésus est un refuge solide et fiable pour tous ceux qui se confient en lui. C'est pour ça que le psalmiste le dit, heureux l'homme qui se confie en lui. Et aujourd'hui, pour terminer, je ne vais pas prononcer la formule traditionnelle, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Mais pour conclure, je vais l'adapter cette formule au texte d'aujourd'hui. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, mais pour vous, n'ayez pas peur. Amen.